bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du meilleur podcast de la galaxie. C'est la Belle et les Gamers, c'est l'épisode numéro 274. Bonjour Aza.
Salut Ben.
Bonjour à tous, bonjour chez vous. Qu'est-ce qui se passe en ce lundi 10 avril 2023 ?
Je vais manger du chocolat.
Ouais, voilà, c'est le lundi de Pâques.
C'est le lundi de chocolat.
Attention, si vous jouez à Animal Crossing, il y a ce connard de lapin bizarre qui est de retour. Il est furieux, le lapin de Pâques d'Animal Crossing. Il te met des œufs partout, c'est un cauchemar, tu peux rien faire d'autre.
Ah, d'accord.
Ouais, non. Attention, si vous vous promenez dehors, possibilité d'avoir un Jésus zombie qui vous attaque à tout moment.
Un Jésus zombie ?
Oui.
Dehors ?
Et c'est ça, ça peut arriver.
Mais où ça ?
N'importe où. Il est partout.
Le Jésus zombie, il est partout.
Ouais. Mais vous en faites pas, on est là pour parler jeux vidéo. On va.
Mais c'est un vrai Jésus zombie ?
C'est ça. Ouais. Il peut débarquer à tout moment. La Belle Gamer, c'est toute l'actu des jeux vidéo avec moi-même Ben et ma chère Aza. Chaque lundi, on vous raconte nos péripéties sur les dernières sorties. On vous décrypte l'actu, les dernières infos brûlantes et les rumeurs les plus folles. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast. Et vous pouvez également nous retrouver sur notre chaîne Twitch, sur Twitter. Et rejoindre la communauté de La Belle Gamer sur notre serveur Discord. Pour nous soutenir, vous pouvez laisser un commentaire 5 étoiles sur votre app de podcast préféré pour aider d'autres joueurs comme vous à nous découvrir. Vous pouvez également nous soutenir sur Patreon. L'adresse c'est patreon.com/labelle-gamer. Comme d'habitude, tous les liens utiles sont dans les notes de cet épisode. C'est parti, Aza, pour cet épisode 274. On a pas grand-chose. Hein.
Il faut que tu m'expliques le Jésus zombie déjà, hein, parce que j'ai pas compris et...
Mais c'est pas... Il revient à Pâques, Jésus. Il était mort et puis...
Ah, c'est ça. C'est juste une blague à la con.
Oui. Ah, tu croyais que c'était quoi? Qu'il y avait un vrai...
Non, je croyais qu'il y avait...
Oui, non, c'était...
C'était un vrai truc, quoi.
Non.
Ah non, c'est pour Pâques.
Non, c'est Pâques. Putain, c'est la tradition, c'est tout.
Le cerveau, ça va pas.
Hein. Non.
Non, mais Jésus, il revient pas pour Pâques.
Il revient quand?
Mais c'est pas à Pâques qu'il revient, Jésus.
Et il revient quand ?
Mais je sais pas, moi.
Il me semble que je sais pas.
Moi, j'y connais rien.
Mais moi non plus, je comprends rien. Si j'ai offensé des... des millions. J'en suis navré. Pas beaucoup d'actualité cette semaine, mais il se passe quand même des trucs. Hein. On a noté pas mal de choses, mais on a joué à beaucoup de choses. On va vous parler de plein de jeux, les dernières sorties. Et les sorties de l'année dernière aussi. On va trouver. Non, une sortie. Alors, un jeu qui est sorti cette semaine, qu'on a pu tester et terminer avec Aza, c'est Road 96 Mile Zero.
Ah, il y a ça aussi.
Et oui, rappelle-toi, Aza. C'était pas très long comme jeu, donc il sort vite du. Bon, on va pas.
C'était pas top. Hein.
C'était pas top. Hein. C'était un jeu vite oublié. Qu'est-ce que c'est Road 96 Mile Zero ? Qu'est-ce que c'est Road 96 tout court ? Rappelle-toi de ce jeu qui est sorti l'été 2021.
D'accord.
C'était
pas mal, ça.
C'était vachement bien. En fait, c'est pour ça que ça, c'est une petite déception. Road 96, c'était vachement bien, ce road trip procédural où tu jouais. Un ado en fugue qui essaie de quitter son pays, Petria le pays,
je crois,
il me semble, avec une dictature en place, c'est pas simple pour les jeunes de vivre là-bas, donc tu essaies de gagner la frontière et de traverser la frontière, ouais. Et tu avais des aventures générées aléatoirement au fil de la route. Tu faisais des rencontres assez incroyables avec des personnages vachement, vachement cool. Mmh. Et tu essayais de passer la frontière. Et si tu arrivais ou si tu arrivais pas, bah après, tu recommençais, tu faisais un autre ado et tu refaisais la route et tu recroisais les mêmes personnes. Et du coup, de fil en aiguille, tu recoupais un petit peu les histoires de tous ces personnages et tous ces destins croisés. C'était très bien écrit, c'était charmant. Il y avait une super musique, une super ambiance. C'était vraiment un super jeu. Mile Zero, c'est sorti cette semaine. Et c'est dans cet univers-là. Ça se passe avant Road 96. Mais juste avant, hein, vraiment, quelques jours, quelques semaines avant, puisque tu vas en apprendre plus, en fait, sur le personnage de Zoé, qui était déjà dans Road 96, et son pote Kaito. Kaito, c'est un nouveau personnage, par contre, hein, qu'on n'avait pas vu. Ces deux amis qui vivent donc dans la capitale, Elle est plutôt issue d'une famille aisée. Hein, son père travaille au gouvernement.
Oui, oui, c'est la fille du ministre je sais pas quoi.
Du ministre du pétrole, un truc comme ça. Et ça se passe pas bien avec sa famille. Hein. C'est un petit peu pour ça qu'on la retrouve dans Road 96, dans l'original en fugue. Hein. Ça se passe pas super bien. Et elle est très pote avec Kaito, qui lui est par contre issu des familles les plus...
Défavorisés
de la ville. Donc voilà, c'est à la base, il y a un petit peu tout qui les oppose. Et voilà, donc c'est une petite aventure où tu vas suivre un petit peu leur histoire pendant quelques jours avec elle. Elle qui est un petit peu, elle part, forcément elle est fille de ministre, elle est un petit peu, elle est pas pro-gouvernement, mais bon, elle est plutôt bien lotie et plus ou moins elle va apprendre à comprendre le point de vue des révolutionnaires, hein, ce qu'ils appellent les Black Brigade, qui sont un petit peu la résistance anti-gouvernementale. Et Kaito, lui, par contre, il est à fond là-dedans et il essaye de lutter un petit peu contre le gouvernement, mais lui aussi, il va un petit peu tomber de haut et se rendre compte que les Black Brigade, c'est pas non plus l'idéal, tu vois, c'est pas juste des gens qui protestent contre le gouvernement, hein, ça va vite aller jusqu'au terrorisme, hein, et ça on l'a vu dans Road 96. Donc voilà, c'est des points de vue un petit peu qui rentrent en conflit, et tu vas suivre leur histoire. Niveau gameplay, c'est pas super intéressant. Tu as plus du tout ce road trip procédural où tu avais vraiment ce roguelike où tu avais des aventures différentes à chaque partie. Là, c'est un truc narratif.
Ouais.
Hein, c'est une succession de scènes que tu fais dans un ordre tout à fait linéaire. C'est des petites scénettes où tu arrives dans une zone, tu fouilles un petit peu, mais il n'y a pas grand-chose à trouver.
Non.
L'exploration, elle sert un petit peu à rien.
L'exploration sert à rien.
Hein, il ne se passe rien en exploration, tu as quelques dialogues, et à la fin de la scène, généralement, à cause des événements qui se passent, tu dois t'enfuir d'un truc, il y a quelqu'un qui te court après. Et tu as une scène, tu as une petite scène musicale où généralement tu as un roller ou un skateboard. Et d'un coup, tu as une phase de gameplay complètement différente.
Ouais, ça,
une phase musicale.
Pas compris d'où ça sortait.
Où tu as un parcours d'obstacles, où tu dois ramasser des petits diamants sur un parcours d'obstacles, sauter par-dessus des trucs, te baisser quand il y a des obstacles, vaguement sur le rythme de la musique, une bande-son qui n'est pas forcément mémorable non plus. Ouais. C'est un petit peu bizarre.
Ouais, ça colle pas trop avec. Est-ce qu'on avait pu
ça colle pas trop, c'est un gameplay complètement différent, ça apporte un nouveau truc, et le jeu se base vraiment là-dedans, parce que c'est des scènes que tu vas avoir 50 000 fois.
Ouais.
À la fin de chaque chapitre, t'as une scène comme ça, et c'est pas forcément réussi. Hein, c'est pas super intéressant d'un point de vue rythme, c'est pas intéressant d'un point de vue parcours, ou d'un point de vue scoring non plus. Je comprends pas comment le score marche, parce que même si tu ramasses quasiment tout, si tu rates un ou deux diamants et que le combo est cassé, du coup, t'as un score de merde.
Ouais, et puis bon, c'est pas... Moi, surtout, c'est pas le genre de jeu où t'as envie de faire ça, quoi.
Non, c'est vraiment
un contre-pied. C'est un jeu qui est basé sur l'histoire. Je comprends pas pourquoi ils ont mis ça dedans.
Ouais, et sur une histoire qui est pas aussi intéressante que l'original, c'est pas bien écrit, y a pas la même profondeur.
Et puis surtout, en fait, le problème qu'ils ont, c'est que là, on la connaît déjà, l'histoire de l'original.
Ouais,
on sait ce qui se passe. Et du coup,
ils n'ont rien de plus à dire.
Voilà, ils n'ont rien de plus à dire, il ne se passe rien de plus. On sait très bien, en ayant joué au jeu précédent, on sait très bien tout ce qui se passe, etc. Et c'est vraiment très, très creux, malheureusement.
Ouais, ouais. Et là où le premier arrivait à te raconter une histoire plutôt cool, parce que voilà, c'est des sujets assez graves. C'est un pays fictif, hein, mais c'est des sujets assez lourds, mais qui sont racontés assez légèrement, parce que les personnages, ils sont rigolos, les scènes, elles sont marrantes, c'est un petit peu caricatural.
Oui.
Là, Miles Zero, c'est la caricature de la caricature, tu vois. Ouais, c'est vraiment, là, par
loin.
Contre, c'est plus... c'est vraiment que des scènes comiques sur fond de sujets assez graves. Ça a aucun sens. Le ton est raté, gameplay est raté. Le jeu fait 2 heures, quoi.
Ah oui, le jeu est ridiculement court. Hein.
Le jeu est ridiculement court.
C'est ça que j'ai pas compris. C'est présenté comme un jeu. C'est présenté comme un jeu, un DLC.
Alors c'est pas un DLC, c'est un jeu à part. Tu peux acheter Road 96 Mile Zero tout seul.
Ouais, mais combien ça coûte, hein?
Ça vaut 10 balles, 12 balles. C'est pas cher, tu vois.
Ah,
c'est pas un... Non,
bon,
c'est pas un... C'est tout petit jeu, tout petit prix.
D'accord.
Hein, ça, c'est pas l'arnaque, entre guillemets, c'est on respecte. Par contre, je trouve pas que ça soit une porte d'entrée intéressante dans cet univers. Je veux dire, y a des gens qui vont se dire ah bah ça se passe avant, on va commencer par ça avant de faire et voir si ça nous plaît parce que c'est moins cher avant de faire le vrai jeu. C'est une mauvaise idée. Le vrai jeu est super, ça c'est une déception. C'est voilà, mmh. On s'ennuie très très vite et le jeu est terminé immédiatement. Donc c'est vraiment anecdotique. J'allais dire, il y aurait eu d'autres moyens de raconter cette histoire, mais même pas, il n'y a même pas besoin de raconter cette histoire.
On s'en fout.
Hein. exactement, ça apporte rien.
Non.
Ça apporte rien, c'est dommage. Alors, t'as des clins d'œil, hein, tu vois apparaître de temps en temps plein de personnages du jeu original. T'as la flic, t'as la journaliste, t'as le garde du corps de la journaliste, voilà, t'as plein de persos que tu vas recroiser.
Ouais, mais je pense qu'il n'y avait pas besoin d'en rajouter sur cette histoire, en fait.
Non, vraiment pas.
C'est bon, c'était un bon jeu, c'est fini. Maintenant, il n'y a pas à broder sur quelque chose qui a bien marché. Il n'y a pas assez quoi, pour faire plus que ça.
Oui, c'est un petit peu dommage. Plus intéressant déjà dans les sorties de cette semaine, toujours en petit jeu indépendant, c'est Dredge.
Ça, c'est vachement bien.
Ça, c'est vachement bien, c'est vachement mieux. Allez jouer à Dredge. Dredge, c'est un jeu de pêche d'horreur. Je sais que c'est un mélange un petit peu pas forcément évident, mais c'est ça. Tu es pêcheur, tu arrives dans un petit port de pêche. Alors l'histoire c'est que tu t'échoues dès le début, donc du coup au port de pêche il te file un bateau, mais t'es censé pêcher pour eux pour payer ta dette en fait.
D'accord.
Donc tu arrives là, donc tu es un petit chalutier, tu pars en mer et tu pêches des poissons. Voilà. En fait, les phases de gameplay, tu joues le bateau quoi. Mm-hmm. Tu diriges le bateau, tu vas te mettre sur des bancs de poissons, tu vas pêcher. À chaque fois que tu pêches, il y a un petit mini-jeu pour faire remonter le poisson. Une fois que tu as remonté le poisson, il faut le mettre dans la cale. Alors tu vas avoir des poissons, la cale, tu t'organises ça, c'est un petit peu Tetris.
Voilà, la cale, c'est Tetris, ouais.
Alors, on va le comparer à un jeu à la mode. Si vous avez joué récemment à Resident Evil 4,
ouais.
C'est l'inventaire de Resident Evil 4. Tu as une cale quadrillée, tu as des poissons qui ont des formes bizarres, ils peuvent faire un T ou une barre ou un truc comme ça, un petit peu comme Tetris. Tu vas les répartir de façon à optimiser ta place et avoir un maximum, remplir ta cale au maximum. Une fois qu'elle est pleine, tu retournes...
Elle est vite pleine, hein. Si tu prends des gros poissons, elle est vite pleine.
Ouais, si tu prends des très gros poissons, tu en mets un dans la cale.
C'est ça.
Mais voilà, une fois qu'elle est pleine, tu ramènes tout ça au port, tu vends tout, tu te fais de l'argent. Avec l'argent, tu améliores ton bateau et tu repars. Pourquoi c'est un jeu d'horreur ? Parce que tout ça, ça a l'air très rigolo comme ça quand je le raconte, mais en fait, l'ambiance est ultra lugubre.
Oui.
Limite horreur cosmique, quoi.
Voilà, c'est une ambiance horreur cosmique à la Lovecraft.
Complètement.
C'est-à-dire... Et la nuit, ça part en vrille complètement, quoi.
En journée, c'est lugubre, la nuit, c'est terrifiant. je sais pas, c'est hanté, c'est fantomatique, c'est des poissons mutants, c'est des poissons bizarres. Tu vas te retrouver à pêcher des pieuvres à trois têtes avec une ambiance malsaine, des trucs pas possédés, je sais pas.
Si ouais, tu... et puis tous les gens que tu croises, ils sont bizarres. Enfin, C'est une série de petites îles qui sont hyper isolées, avec des gens qui sont, bah, du coup, des gens très isolés qui habitent sur une île au milieu de nulle part. Donc voilà, qui te demandent des choses bizarres.
Ouais.
Voilà.
Non, tu vas te balader dans des récifs, tu vas tomber sur des cristaux dans les récifs qui émanent une aura un petit peu bizarre.
Oui,
c'est que des choses étranges. Si tu te balades la nuit, alors la nuit, il y a des monstres marins, il y a des fantômes, il y a la brume, il se passe des choses mystérieuses. Alors, l'histoire, c'est qu'il y a des marins qui disparaissent dans la brume régulièrement.
Oui, voilà.
Et quand tu essayes de t'aventurer dans la brume, tu comprends vite pourquoi. Tu essayes de marcher avec tes phares qui ne sont pas très puissants, qui éclairent pas très loin, donc tu vas te prendre des récifs si tu fais pas gaffe.
La nuit, c'est très dangereux.
Tu as aussi une corne de brume pour essayer de signaler ta position. Et généralement, la nuit, quand tu envoies la corne de brume, tu entends un truc te répondre, mais tu ne sais jamais trop ce que c'est. C'est flippant, la nuit c'est flippant, donc il faut vite rentrer au port et dormir et réparer ton bateau et t'occuper des trucs et repartir le lendemain matin. Il y a une histoire.
Au fur et à mesure, en fait, tu rencontres des gens, il y a des quêtes et tu fais...
Il y a une quête principale à base d'artefacts bizarres que tu dois retrouver sur des épaves, sur des machins, donc c'est des prétextes de t'envoyer dans des zones avec des biomes différents, tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'au début, t'as la canne à pêche qui est bien pour pêcher près des côtes, tu vois. Mais si tu veux pêcher en océan ou des trucs comme ça, il faut des cannes à pêche différentes, il faut des filets différents. Tu peux améliorer tes filets, tes moteurs, tes cannes à pêche, tes.
Oui, après,
tu as
tout le système d'amélioration du bateau.
Et là aussi, il faut optimiser parce que tu as pas la place de mettre tous les équipements dans ton bateau. Donc tu vas dire, bon, ben, si j'ai besoin de ma canne à pêche pour pêcher en haute mer, ben, je vais pas avoir la place de mettre des filets. Ou au contraire, si je veux plutôt mettre des filets, ben, je vais plutôt mettre la canne à pêche qui va me permettre de pêcher en mangrove. Voilà, c'est. Tu vas équiper ton bateau différemment selon ce que tu prévois de faire. C'est assez addictif.
C'est très addictif, ouais. On va dire, c'est relativement simple, mais ouais. C'est plutôt addictif.
Ouais.
Très sympa.
Très vite, tu as une grue aussi pour faire pour draguer des trucs, des vieilles épaves, récupérer des matériaux.
Oui, tu fais pas que pêcher, tu récupères des matériaux, tu récupères
des petits trésors,
des machins, des trucs comme ça.
C'est vraiment vraiment sympa. C'est très joli, c'est très mignon. L'ambiance est vraiment.
C'est vraiment réussi.
Est vraiment réussi. Et comme dit, c'est addictif parce qu'à chaque fois, tu te fixes des micro-objectifs que tu vas accomplir très vite. Et tu dis, ah ben, pour cette amélioration, il me manque plus qu'une planche. Alors, je vais aller vers les épaves, récupérer une planche, la ramener. Ah, ça y est, je peux faire. Ah, maintenant, je peux installer ma nouvelle canne à pêche. Ah, mais pour la nouvelle canne à pêche, il faut que je fasse ça. Il me manque un petit peu d'argent. Et ben, je vais aller pêcher des requins en haute mer. Et tu ramènes tes trucs, ainsi de suite, et tu vas jamais t'arrêter, et tu vas progresser comme ça. Et c'est un jeu qui a une histoire, qui a une fin, hein. C'est pas juste un jeu de pêche procédurale.
Non. Une fois que t'as fini les quêtes, t'as fini les quêtes.
Voilà, hein. T'as des quêtes, t'as une fin, et après tu peux aller plus loin que la fin, si jamais tu veux vraiment choper tous les poissons différents, tous les trucs comme ça, tu peux...
Oui, après t'as quand même un inventaire de poissons.
Voilà, t'as une encyclopédie que tu peux remplir, est-ce que t'as vraiment
t'as
tout trouvé.
T'as beaucoup de quêtes annexes, bon voilà, tu peux faire pas mal de trucs.
Il y a de quoi s'occuper.
Et donc, tu l'as streamé la semaine dernière.
Ouais, on a fait un stream dessus.
Voilà. Si vous voulez voir un petit peu ce que c'est.
Ouais, il y a le replay sur la chaîne Twitch de la Belle Gamer. N'hésitez pas à aller voir. Voilà, ça s'appelle Dredge. C'est disponible un petit peu partout, sur console, sur PC et même sur Switch. N'hésitez pas, c'est vraiment recommandé. On continue. Un autre truc qui est sorti cette semaine, mais qui est sorti l'année dernière aussi.
Oui, auquel on n'avait pas joué. Hein.
Auquel on n'avait pas du tout joué.
Parce qu'on avait bien craché dessus et du coup, on n'avait pas envie de jouer.
Aza, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. On va parler. Il s'est passé un truc étrange là dans le.
Ouais,
il y a eu
un truc.
On va mettre en place la scène. Hein, ça se passe dans le QG de la Belle et le Gamer. Le jour, c'est dimanche, hein, c'est hier.
T'as commencé hier ?
Hier, hier, un petit peu avant d'enregistrer, on avait prévu d'enregistrer hier, finalement on enregistre aujourd'hui lundi.
Oui, donc c'est ta faute. Ouais.
C'est un peu à cause de ça. on se dit, bon, bah, avant d'enregistrer, ah bah regarde, Square Enix, ils ont été sympas, ils nous ont envoyé une clé pour la sortie sur Steam de Stranger of Paradise, Final Fantasy Origins. Viens, on le lance 5 minutes pour voir à quoi ça ressemble et comme ça on pourra en parler un petit peu. 24 heures plus tard, j'ai terminé Stranger of Paradise Fantasy Origins. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
Ouais.
J'ai pris la manette et je ne l'ai pas lâchée.
Non.
Alors, on va reconnaître qu'on s'est beaucoup bokeh de Stranger of Paradise. Donc, il va falloir un petit peu déballer tout ça, revenir un petit peu en arrière, comprendre ce qui s'est passé.
On s'est beaucoup moqué, mais bon, il y a de quoi se moquer aussi. Il y a une ambiance, surtout au début du jeu, qui
surtout
est un petit peu bizarre, quoi.
Le problème...
C'est un peu décalé, on ne comprend pas trop où ça va mener, et puis finalement, bah, ça...
Donc voilà. Voilà. Ouais, on a donc terminé Stranger of Paradise littéralement en deux sessions.
Tu as terminé.
Ouais, mais soutien moral d'Aza. Hein.
Ah oui, toujours.
Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc Stranger of Paradise, c'est vrai qu'il est sorti l'année dernière, il avait été annoncé très tard. Genre annoncé en janvier pour une sortie en mars, un truc comme ça, ça a été très très vite. Et c'est vrai que les trailers étaient assez ridicules sur la présentation, sur l'histoire, sur les personnages de ce jeu.
Alors mais on les retrouve dans le jeu, les trailers.
Et on les retrouve.
Les cinématiques sont là.
Mais hein. c'est des trailers qui se limitent vraiment à la première mission du jeu, qui place l'histoire. Et du coup, c'est un jeu qui cache bien son jeu, en fait, et qui dévoile rien du tout de sa véritable histoire. Et du coup, ça l'a un peu, je pense que ça l'a un peu desservi.
Ouais.
Et c'est un petit peu dommage. Stranger of Paradise, donc c'est dans l'univers de Final Fantasy, c'est un jeu qui est développé par la Team Ninja, hein, les gens qui font Nioh, qui font Wolong, donc C'est un jeu qui se passe dans l'univers de Final Fantasy, du premier Final Fantasy, Final Fantasy 1, mais qui reprend des jeux d'action à la troisième personne, qui va reprendre des mécaniques, des jeux à la Nioh, des Souls-like, des trucs comme ça, avec des combats assez exigeants, basés sur des parades, sur des esquives, sur des coups vraiment...
C'est pas fou non plus, hein.
Ça va... Non, mais il y a des systèmes, tu vois, quand tu progresses, t'as pas des feux de corps, mais c'est des cubes, mais voilà, tu te reposes là, ça te permet de récupérer toutes tes potions, sauf qu'en contrepartie, tous les ennemis réapparaissent. Voilà, c'est ce type de structure qu'on commence à connaître.
Ouais, mais c'est pas dur, contrairement...
Mais c'est... Alors, le jeu, j'ai trouvé le jeu... super facile.
Voilà.
Ce qui m'a permis de le finir rapidement. Hein, mais c'est vrai qu'au début, t'as le choix entre trois niveaux de difficulté, facile, normal, difficile. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Hein, mais l'équivalent, c'est facile, normal, difficile. Moi, je me suis calé au milieu en normal par défaut. Si vous êtes amateur de ce style de jeu, peut-être que peut-être qu'il faut vite passer en difficile pour pas trop rouler dessus. Mais voilà, c'est ce style de jeu, c'est composé en missions comme Wolong, comme Nioh, c'est-à-dire que c'est des missions assez lignes, c'est pas un monde ouvert, c'est vraiment des missions successives.
Ouais, tu pars en mission à chaque fois, t'as un
avec
groupe.
Un début, une fin, tu as ton groupe, tu as tes compagnons.
Oui, après ce qui rend le jeu plus facile aussi, c'est que t'as quand même deux compagnons avec toi qui se battent et qui font du dégât, quoi.
Qui font du dégât, qui prennent l'aggro.
Donc tu gères l'équipement, etc. Voilà.
Et voilà, donc tu as ton niveau avec un début, une fin, les niveaux sont assez courts, ils font pas plus d'une demi-heure, à la fin t'as un boss, et roule et on passe à la suite. Il y a un système d'équipement. Le jeu t'inonde vraiment de pièces d'équipement. C'est par dizaines et dizaines et dizaines. Je veux dire, à chaque fois que tu tues un monstre, tu vas choper 3 pièces, 4 pièces d'équipement sur le moindre ennemi. C'est assez dingue. Tu te retrouves en fin de mission avec une centaine de pièces d'équipement dans ton inventaire à trier, à classer, machin, avec des niveaux de rareté, une étoile, deux étoiles, quatre étoiles, cinq étoiles, même quand tu progresses bien. Différents types d'armes, différents trucs. Et donc là, tu vas équiper ton personnage, tes personnages, puisque tu vas équiper tes compagnons aussi. Et voilà. Là, une originalité de ce jeu, et un truc qui marche très bien, et ça, c'est quelque chose qu'ils ont été piochés vraiment dans l'univers de Final Fantasy, c'est le système de classe.
Ouais.
T'as un système de classe vachement sympa, avec des classes de base, des classes avancées, des classes ultimes. Mmh. Selon l'arme que tu équipes, un petit peu à la Final Fantasy XIV, finalement.
C'est ça,
selon l'arme que tu équipes, tu vas avoir une classe différente. Hein. Si tu équipes une épée, tu vas avoir une certaine classe. Si tu vas équiper une lance, tu vas être un lancier. Si tu vas équiper des dagues, tu vas être un surineur. Si tu vas, voilà. Selon l'équipement que tu vas être une autre classe. Chaque classe a son arbre de talent. Et donc, tu vas pouvoir apprendre des combos, des compétences, des trucs comme ça, liés à la classe. Hein. Tu mets un bâton, tu deviens un mage. Et là où c'est intéressant, c'est que tu as ensuite un système de classe avancé. Et là, c'est un petit peu... Ça aussi, c'est pioché à Final Fantasy. Si tu vas arriver niveau max dans deux classes, tu vas pouvoir débloquer une classe avancée qui est un petit peu la fusion de ces deux classes.
D'accord.
Alors, je ne sais plus par cœur les combinaisons possibles, mais tu vas pouvoir évoluer. Par exemple, l'évolution classique, c'est que lancier, ça devient chevalier dragon. Voilà, ce genre de choses. Et ensuite, tu as un troisième palier, c'est les classes ultimes. Une fois que tu as monté trois classes d'un niveau intermédiaire, tu peux avoir des classes ultimes avec des combos à chaque fois plus puissants, des trucs comme ça, plus de flexibilité. Donc c'est assez intéressant, ça c'est assez complet à ce niveau-là. Surtout que tu peux avoir sur toi deux classes en même temps. Mmh. Hein, avec la touche Y, tu vas pouvoir passer d'une classe à l'autre.
Même changeant d'arme.
En changeant d'arme, tu vois, ça change d'arme, ça change l'équipement complètement. Mmh. Tu passes de ton équipement de guerrier à ton équipement de mage vraiment en un bouton. Ouais. Et c'est un bouton que tu peux faire même au milieu d'un combo. Mmh. Donc tu peux commencer un combo sur... au katana parce que t'es samouraï et appuyer sur Y et finir le combo par un sort parce que t'es passé black mage dans le même combo. Donc ça permet d'avoir des trucs assez dynamiques. Mm-hmm. C'est assez cool. T'as aussi un système de vol de sort et de vol de compétences qui est assez original et assez marrant dans le jeu. Si tu fais... Alors, t'as le système de parade, t'as le système de parade parfaite. Mm-hmm. Et si tu fais une parade parfaite sur une compétence de l'ennemi, sur une boule de feu ou sur un sort ou un truc comme ça, tu récupères ce sort et tu peux le relancer sur ton adversaire.
D'accord.
Donc ça, c'est assez jouissif, c'est assez intéressant et voilà. Le jeu est pas méga long, hein, c'est... Alors, comme dit, nous, on l'a fait quasiment d'une traite, c'est une quinzaine d'heures, hein.
Oui, c'est pas très très long quand même.
C'est pas, c'est enfin, pas
super long. Après, t'as rushé l'histoire principale. Hein.
J'ai fait, alors, voilà, attends, c'est... j'ai fait l'histoire principale, j'avais envie de voir la fin. Donc voilà, il y a plein de quêtes annexes, des trucs comme ça. J'en ai fait quelques-unes, parce qu'il y en a qui débloquent des classes ultimes pour tes compagnons, donc ça, je voulais le faire. Mais bon, les quêtes annexes, elles vont plus... Ça va plutôt vite, hein, c'est maxi 10 minutes, hein. Et ça va assez vite parce que quasiment tous les boss, à part le tout dernier où j'ai un petit peu plus galéré, mais là, tous les boss, ça a été du one shot quasiment.
Ouais.
Comme dit, le jeu est pas dur. Même si de temps en temps, il essaye de te faire un petit peu peur, il va te dire attention pour la prochaine mission, il te faut un équipement niveau 75, ton équipement actuel, il est plutôt niveau 63, donc t'es dans la merde. Donc là, il te dit ah, peut-être que tu vas faire des quêtes annexes pour farmer un peu d'équipement pour pas t'améliorer. Non, moi, je m'en fous, tu vois, tu pars sur des trucs, même si t'as pas l'équipement, le jeu t'inonde tellement d'équipement tout le temps, que tu serres un petit peu les fesses sur les 3-4 premiers ennemis, et d'un coup, tu vas avoir l'équipement qu'il faut et tu vas te remettre au niveau immédiatement. Donc c'est assez, entre guillemets, facile à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment d'équilibre.
Ouais, c'est un peu trop, quoi.
C'est un peu trop, ça tue aussi ton envie d'explorer. Parce que quel intérêt d'essayer de chercher le moindre recoin du niveau. C'est, oh, regarde, là, il y a une porte secrète et derrière la porte, il y a de l'équipement. J'ai perdu 10 minutes à chercher un coffre alors que je pourrais passer à la mission d'après et avoir de l'équipement 10 niveaux de plus immédiatement sans effort.
C'est ça, il y a
effort,
un peu
quoi.
Trop d'équipement pour...
Voilà.
Bah pour que tu restes sur le jeu, en fait. Hein, voilà,
c'est ça. Donc, il n'y a pas énormément de défis. Il faudrait effectivement, si tu cherches ça, si tu cherches à vraiment optimiser ton équipement et avoir des difficultés à progresser, il faut se mettre en difficile, quoi.
Ouais, d'accord.
Ça paraît indispensable si tu veux profiter de cet aspect-là du jeu, quoi. Voilà. Mais sinon, bonne surprise niveau histoire, comme dit. Alors, l'histoire, on s'est moqué des trailers parce que le personnage principal, Jack, le mec le plus...
Bah déjà, les mecs, ils arrivent, c'est les Backstreet Boys, quoi.
Ouais, ils sont habillés comme les Backstreet Boys au milieu d'un truc médiéval, fantastique.
Au milieu d'un truc médiéval, ouais, c'est trop bizarre.
C'est très bizarre. Alors, le jeu s'appelle Stranger of Paradise.
Ils sont pas du coin, quoi.
Leur pièce d'équipement, c'est le pantalon d'étranger, la tenue d'étranger, les chaussures d'étranger, tu vois, c'est marqué sur les pièces d'équipement. Tu es vraiment un étranger dans ce truc-là, tu sais pas trop d'où tu viens, tu le découvres un petit peu plus tard, évidemment. Mais l'idée, c'est ça. Et on s'est moqué des trailers parce que il montrait ce personnage de Jack qui avait son t-shirt qui avait rien à voir avec le truc. Et son but dans la vie, c'est d'affronter K.O., de tuer K.O. Qu'est-ce que c'est K.O. ? C'est un méchant. Et voilà, il le
et
dit
tout,
50
c'est...
fois dans le trailer. C'est une obsession.
Ouais.
C'est, voilà, est-ce que K.O. est là ? Je m'en bats les
couilles. Justement, ça fait partie de l'histoire, mais c'est vrai que... Comme ça, sans contexte, ça fait bizarre, en fait.
Et c'est sans contexte, et vraiment, et le personnage est un idiot. C'est un idiot qui est bloqué, il est vraiment bloqué sur cette histoire de chaos. Et à chaque fois que quelqu'un essaie de lui dire un truc, il répond, mais littéralement, dans le jeu, il va répondre au personnage, j'en ai rien à foutre, je suis là pour tuer chaos. Et il bloque là-dessus, et c'est à mourir de rire, jusqu'à ce que tu finisses par comprendre pourquoi, tu vois. Pourquoi il est aussi bloqué là-dessus, qu'est-ce qui se passe, parce qu'il a aussi, t'as l'impression qu'il est un petit peu amnésique, hein, donc tu sais pas trop, il sait pas trop d'où il vient, il sait pas trop pourquoi il est là. Il a vraiment juste cette idée obsessionnelle, et c'est tout. Et il y a une raison scénaristique pour ça.
Mais c'est vrai que du coup, tout ce truc-là est pas amené de manière très subtile, en fait.
Non,
du
et
coup,
c'est ridicule.
Au début, bah, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi.
Ouais.
Et après, une fois que tu commences à rentrer dans l'histoire, dans le scénario, machin, que tu commences à creuser un peu plus, là, voilà. Mais c'est vrai que le premier abord du jeu, il est pas attractif, quoi.
Ouais. Et t'as l'impression que vraiment...
Ils auraient pu faire différemment.
T'as vraiment, quand tu prends la manette en main et que tu commences le jeu, t'as vraiment l'impression de jouer un idiot, de jouer un abruti.
Oui.
Et tu te dis, mais c'est pourquoi c'est un... Et au bout d'un moment, le jeu te répond, oui, tu joues un idiot, tu joues un abruti. Sur les écrans de chargement, tu as
oui,
des
vrai.
Descriptifs de la zone où tu vas arriver ou des événements qui se passent et tout. Et à chaque fois, c'est titré « Journal d'un sot ».
Ouais.
Et jusqu'à ce que tu réalises que c'est Jack, c'est ton personnage qui a écrit ces trucs-là. C'est vraiment le jeu lui-même l'appelle un sot, un idiot. Mais pourquoi c'est un idiot ? Parce que, voilà, on va pas spoiler l'histoire, mais c'est intéressant. C'est intéressant,
mais c'est vrai qu'au premier abord, ça donne pas forcément envie, quoi.
Ouais. Mais bon, après, ça te donne envie de continuer, parce que sur la deuxième moitié, sur le dernier tiers du jeu, quand les choses commencent à se dénouer, c'est vraiment... D'accord. Et c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Donc voilà, on l'a fait donc sur PC, hein, sur Steam. Stranger of Paradise, il est dispo depuis mars de l'année dernière sur à peu près toutes les consoles et sur l'Epic Game Store. Il est sorti là cette semaine sur Steam. Donc c'est à cette occasion qu'on l'a fait pour la première fois. Et c'est franchement très sympa. Ça a été une bonne surprise. C'est pas dans le genre de jeu, c'est pas forcément le meilleur, hein. Si tu cherches un jeu un petit peu exigeant sur l'action, peut-être que tu vas plutôt taper dans du Nioh ou du Wolong
ou
aller voir chez From Software, mais le croisement avec l'univers de Final Fantasy et tous ces clins d'œil, ces références à Final Fantasy, pas que Final Fantasy 1, mais sur la licence dans son ensemble, c'est un jeu qui va piocher à plein de Final Fantasy différents pour amener des éléments, et du coup c'est intéressant, le fan de Final Fantasy va vraiment s'y retrouver, quoi. C'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre programme ? Il y a un jeu dont on n'a pas assez parlé, Asa. Ah. On aurait dû en parler la semaine dernière et on a oublié, et je l'ai remis sur la liste de cette semaine. On a terminé récemment Like a Dragon Isshin.
Ah oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé.
Et on n'a pas reparlé de Like a Dragon Isshin depuis qu'on l'a fini.
Tout à fait.
Et c'était cool.
Je ne me rappelle plus.
Et voilà, même c'est trop tard. C'est trop tard, on a fait d'autres jeux entre-temps.
Je ne me rappelle plus.
Non, Like a Dragon Isshin, c'est je suis content d'avoir fini. C'est un jeu qui est surprenant, qui m'a surpris sur plein de choses et pas sur ce que j'attendais. C'est pas un jeu qui s'adresse à... Là, je vais un peu redire la même chose que j'ai dit sur Mile Zero, mais c'est pas méchant. C'est pas un jeu qui s'adresse un peu aux curieux de la licence Like a Dragon ou Yakuza, quoi. C'est pas une bonne porte d'entrée.
Non.
C'est un jeu qui s'adresse aux fans de Yakuza qui vont être contents de retrouver un petit peu tous ces personnages dans une histoire un petit peu différente de d'habitude. Et c'est vraiment quelque chose qui s'adresse aux fans et c'est des clins d'œil aux fans continuels, constants. J'invente des mots.
Non, continuel, ça va.
Je suis pas certain que ça existe, mais vous m'avez tous compris, donc ça devrait exister.
Mais si ça existe.
Oui. Ça doit exister. Bref, c'est une succession de clins d'œil pour les fans sur les situations, sur les personnages, sur les trucs. Donc ça, c'est marrant. Après, pour les autres, c'est un jeu qui est un petit peu vieilli. C'est un remake.
Les mécaniques de jeu n'ont pas été remises au goût du jour, quoi.
Voilà. C'est un remake flemmard dans le sens où c'est une copie conforme du jeu de PlayStation 3. Donc du coup, c'est un petit peu... Ça montre son âge. C'est pas un remake comme Resident Evil 4 ou des trucs comme ça, ou les remakes actuels ou qui cherchent à moderniser un petit peu le truc. Non, là c'est un vieux jeu et ça se ressent et c'est un petit peu, parfois un petit peu lourd. Niveau scénario,
c'est exceptionnel. Hein,
c'est assez exceptionnel et c'est marrant qu'ils aient réussi à vraiment s'inspirer de faits réels de cette période-là de l'histoire du Japon et d'être fidèle à ce point-là. Moi, j'ai été bluffé sur la fidélité du truc parce que c'est des événements assez fous.
Ouais.
Et ça colle bien avec l'univers de Yakuza, tu vois. Il se passe des trucs. Et là, t'es là, la manette en main, et il se passe des trucs incroyables à l'écran. Et tu te dis, oh putain, mais ils sont cons, Yakuza.
Et en fait,
c'est la surenchère, et ils font ça, ils en rajoutent, et machin. Et tu te dis, ah, et après, tu vas voir la page Wikipédia de cet événement-là, de ce qui s'est passé. Et il fait, ah oui, mais non, c'est exactement ça, à la virgule, qui s'est passé.
Ouais.
C'est incroyable. Et t'as certains titres de chapitres de Yakuza, t'as un article Wikipédia qui a le même titre, tu vois. Mais voilà, c'est à un moment, il se passe un truc dans une auberge, c'est assez violent, et le chapitre s'appelle... Je sais plus comment s'appelle l'auberge, mais c'est l'incident machin. T'as une page Wikipédia qui s'appelle l'incident machin et qui va te dire, voilà, il s'est passé ça ce jour-là, à telle date, dans cette auberge, avec tel personnage, machin, avec telle personne. C'est des personnages historiques. C'est les enfants à l'école au Japon apprennent l'histoire de ces personnages-là. Et c'est des personnages qui, dans le jeu, sont joués, ont la tête de Kiryu, ont la tête de Goro Majima, ont la tête de tous ces personnages, mais ils existaient vraiment, ils avaient ce rôle-là dans ces organisations-là. Et ils ont fait exactement ces trucs-là. Le jeu prend quand même des libertés. Hein.
Oui.
Hein, y a des histoires de double identité, d'usurpation d'identité. Ça, c'est pas vraiment quelque chose qui a existé en vrai. Même si le jeu, à la fin, le jeu essaye de se rattraper, de se raccrocher aux branches et réussit plutôt pas.
Ouais.
C'est mignon, c'est marrant. Mais voilà, rien que pour en apprendre plus sur cette page de l'histoire japonaise, sur vraiment, c'est l'instant exact où le Japon a basculé dans l'ère moderne. Et c'est intéressant.
C'est super intéressant et c'est vraiment intéressant d'avoir un scénario à la Yakuza mélangé à des trucs historiques, quoi. Ouais. C'est trop fou. Trop bien.
C'est assez marrant. Donc voilà, très content d'avoir un Yakuza, mais c'est quand même un Yakuza pour patienter. On va avoir un autre Yakuza pour patienter avant Yakuza 8, Like a Dragon 8 qui arrive l'année prochaine.
Ouais, il y a le truc avec Kiryu.
Voilà. En principe, à l'automne, on va avoir Like a Dragon Gaiden.
Gaiden, ouais.
Qui est en fait l'histoire de
Kiryu pendant Yakuza 7.
Pendant les événements de Yakuza 7. Mmh. Qu'est-ce qui lui est arrivé entre la fin de Yakuza 6, où il est, pas de spoiler, mais il est obligé de disparaître un petit peu, jusqu'au début de Yakuza Like a Dragon 8,
où
visiblement il va avoir un rôle principal, un rôle majeur. Ouais. Et il s'est passé des choses pendant cette période-là, et ça va couvrir ça, quoi. Et c'est un
après, celui-là peut-être risque d'être quand même un peu plus moderne que Ishin.
Oui, voilà, ça c'est un jeu, c'est pas un remake, c'est un jeu moderne. Hein. C'est un jeu moderne qui va être ça va être un jeu d'action, hein, contrairement à Like a Dragon 8, qui va être un tour par tour. Ça va être un jeu d'action où tu vas rejouer Kiryu et ça va être. Je pense que ça va
être
intéressant.
Peut-être
plus court, mais bon.
Oui, enfin, voilà. On sait qu'ils savent pas trop faire court.
Ils savent pas faire court, hein. C'est surtout si tu fais tous les trucs annexes, ça va être intéressant. Voilà, dernier truc, je voulais encore toucher deux mots de Octopath Traveler 2.
Oui, voilà, parce que ça aussi tu.
Ça aussi
t'es
j'ai
en
bloqué.
Train de le penser, quoi.
Ouais, ça aussi j'ai bloqué sur Octopath Traveler 2. Il est un petit peu plus long que Stranger of Paradise, donc ça va.
Beaucoup plus long, oui.
En fait, tous les trucs que j'ai dit la semaine dernière quand j'ai parlé d'Octopath Traveler 2, c'était faux, c'était juste faux, quoi. Donc ça va être un gros correctif. Simplement parce que Octopath Traveler 2 met du temps à démarrer. Mm. Hein, c'est un jeu qui... Les jeux de rôle japonais, de manière générale, ça met du temps à démarrer parce qu'il y a l'intro, ça met en place les personnages. Au début, t'as des personnages qui sont pas très forts, il n'y a pas trop de mécanique. Mm. Donc traditionnellement, un jeu de rôle japonais, ça démarre lentement. Octopath Traveler 2 démarre lentement 8 fois.
C'est ça.
Donc voilà. Donc ça met un petit peu de temps.
Mais du temps à embrayer
dans l'histoire. Et passer vraiment aux choses sérieuses. Mais au bout d'un moment, on y arrive aux choses sérieuses. Et du coup, ça commence à devenir vraiment intéressant. Il y a les personnages qui commencent à s'entrecroiser.
Oui, il y a des missions plusieurs qui concernent plusieurs personnages.
Je disais la semaine dernière, ah c'est dommage, il n'y a toujours pas d'interaction entre les personnages. Si, il y a de l'interaction entre les personnages, c'est pas énorme, hein, mais il y a des quêtes qui concernent plusieurs personnages et ils vont avoir des histoires annexes, mais communes, et tu vas avoir du coup des interactions entre les personnages. Et également, tu vas pouvoir débloquer des scènes de dialogue quand tu es sur le scénario d'un personnage, par exemple. Tu vas pouvoir débloquer et assister à des dialogues entre ce personnage et d'autres personnages qui vont donner leur avis, leur feedback sur ce qui est en train de se passer, des trucs comme ça.
Ça,
c'est
anecdotique.
C'est anecdotique, mais ça a le mérite d'être là. Voilà. Là, j'ai vraiment un goût complet. Je commence à avoir tous les personnages. Il y a des personnages plus intéressants que d'autres. Ils ont tous forcément un caractère un petit peu différent. Je crois que mon personnage préféré, c'est sans doute le personnage que j'ai débloqué en dernier, donc du coup, ça n'a pas aidé. mais il y a la petite chasseuse, elle est incroyable. Quand on parle de chasseuse, il y a Poupie qui réplique. Elle est vraiment rigolote. Même à jouer, elle est fun parce qu'elle peut dresser attraper les monstres et les dresser pour qu'ils se battent. Ça fait un petit peu Pokémon, mais c'est marrant. Tu attrapes les monstres et après ils viennent se battre pour toi. Mais c'est rigolo parce qu'elle est toute jeune. Elle doit avoir, je sais pas quel âge elle a dans le jeu, mais c'est une gamine. C'est une sauvage. C'est pas une humaine. Elle est mi-homme, mi-animal. Elle a été élevée dans la jungle, dans la forêt. Et donc, du coup, c'est une petite fille qui se prend pour un animal. Donc, de temps en temps, quand elle va faire des attaques spéciales, elle va faire des cris d'animaux. Mais c'est, tu sens que c'est une petite fille qui a enregistré le truc. Alors, quand elle va faire un graou. Et c'est, et c'est vraiment marrant, quoi. Mais l'histoire est sympa. Les histoires sont sympas. Tu sens qu'il va y avoir quand même un tronc commun qui va se développer. Et c'est intéressant. Par contre, ça, c'est un jeu qui a l'air long. Hein.
Oui.
Hein, ça, c'est un jeu qui a l'air très très long. Je risque de passer du temps dessus. Mais avec plaisir, franchement, j'ai du mal à lâcher le truc. La façon dont c'est présenté aussi, tu vois, c'est des petits chapitres, tu vois. Tu vas faire
c'est des petits chapitres.
Le chapitre d'histoire de tel personnage et puis la quête secondaire de tel personnage et tout. Donc, ça aussi, c'est addictif. Tu te lances pas dans des gros trucs. Mmh. Les donjons sont très courts, les chapitres sont très courts. C'est voilà. Quand tu dois te faire un donjon, et c'est vraiment quelques minutes de labyrinthe et de trucs avec un boss à la fin. Et l'histoire avance. Et du coup, il y a un rythme. Le fait qu'il y ait 8 histoires racontées en même temps, c'est un rythme qui est soutenu et ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas.
D'accord.
Donc c'est cool. Moi, ça me plaît beaucoup. Il y a plein de systèmes aussi qui se dévoilent avec le temps. Les systèmes de classe secondaire.
Ah bon?
Parce que, en fait, Octopass, tu as 8 personnages, mais tu en as toujours que 4 dans ton groupe.
J'avais vu.
Tu n'as que 4 dans ton groupe. Donc, tu dois faire un choix, et du coup, tu as des personnages qui ne sont pas dans le groupe, qui sont de côté. Et du coup, tu vas dire oui, mais je n'ai pas leur arme, je n'ai pas leurs compétences, et c'est un petit peu embêtant. Mais tu peux apprendre des classes secondaires, et du coup, tu peux récupérer dans ton groupe.
Tu peux avoir les 8 trucs en même temps, finalement.
Plus ou moins, ouais. Ce n'est pas aussi complet que si tu avais les deux classes, quoi, mais ça permet d'équilibrer un petit peu. Donc, il se passe plein de choses sympas, quoi. Il se passe plein de choses sympas. Tu as vraiment des possibilités de customisation de ton équipe et de tes combats qui est intéressante. C'est un jeu très complet. C'est un jeu très, très complet. Donc, Octopath Traveler 2, on continue et on vous en reparlera quand on sera nettement plus avancé dans les semaines qui viennent. Voilà. Écoute, ça, c'est pour les jeux hein, de cette semaine, assez chargés, comme on a dit. Mais il est temps de passer à l'actualité, si tu veux bien, Aza.
Oui, tout à fait. Poupillé devant mon micro, mais bon, c'est pas grave.
Écoute, hein, s'il y a un truc à dire, tu nous dis. De toute façon, comme dit l'actu cette semaine, j'ai...
C'est light.
Ah, j'ai été cherché jusqu'en page 10, hein, c'est... Asus. Alors.
Des ordinateurs.
Ouais, les joueurs PC connaissent la marque Asus. Hein, ils font des cartes graphiques, des cartes mères, ils font des composants. En particulier leur sous-marque ROG, Republic of Gamers. C'est pas mal de composants d'informatique plutôt chers, pas forcément de qualité extraordinaire, mais voilà, c'est orienté gamer. Bref, Asus a annoncé le 1er avril 2023 qu'ils allaient sortir un concurrent au Steam Deck, en fait, hein, le Asus ROG Ally. C'est un ordinateur portable avec un écran. Ça ressemble à une Switch, ça ressemble à un Steam Deck. C'est un PC portable sur ce format-là qui tourne sur Windows 11. Et donc, c'est un PC. Tu vas pouvoir installer ce que tu veux dessus. Mais ça se positionne comme un concurrent du Steam Deck. Alors, ils ont annoncé ça le 1er avril. Ce n'est pas un poisson d'avril. Hein, ils l'ont répété le lendemain.
Ah, c'est vrai ?
C'est vrai.
Ah, j'ai cru que c'était une blague pour de bon.
Mais il y a pas mal de gens qui ont cru que c'était une blague, et puis ils ont continué à en parler le 2. Alors on s'est dit, ils sont un peu lourds quand même.
Ouais, ils sont lourds. Hein.
Et en fait, non, hein, c'est tout à fait.
Mais quelle idée d'annoncer ça le 1er avril ? Mais t'es complètement con, quoi.
Eh ben, résultat, on parle 2, donc ça marche.
Résultat, on parle 2, mais en disant que c'est des bouffons, quoi.
On sait pas trop ce qu'il va y avoir dedans. Mais t'as raison.
Je veux dire, c'est pas une bonne idée d'annoncer un vrai truc sérieux le 1er avril, quoi.
L'engin a l'air plutôt joli, hein. On sait pas trop combien ça va coûter, on sait pas trop ce qu'il va y avoir dedans, on sait pas trop quand est-ce que ça va sortir. On sait pas grand chose, finalement.
Mais comment ils ont accès au jeu, ces gens-là ? Il y a quoi dessus ?
Windows, c'est un PC.
Donc tu mets Steam dessus.
Donc tu mets Steam dessus, tu mets l'Epic Game Store, tu mets ton Game Pass, tu mets machin. Apparemment,
qu'est-ce que tu t'achètes le Steam Deck alors ?
Ah, si tu veux, ouais. Mais après voilà, bah oui, mais le problème c'est que c'est le principe des produits concurrents. Hein. C'est t'as le choix si tu veux pas un Steam Deck. Steam Deck, c'est un petit peu limité parce que le Steam Deck, tu as Steam dessus. Hein.
Ouais, donc ça, il y aurait Epic Game Store et, voilà, et Steam.
C'est Steam, c'est sur une base Linux. Tu peux bidouiller pour installer des trucs en dehors de Steam. Tu peux même installer Windows dessus, mais faut bidouiller. Hein. Le Steam Deck, c'est vraiment un truc qui te vend Steam. Là, c'est un PC sous Windows. Et donc là, vraiment, d'un point de vue installation, tu es un petit peu plus libre. Et tu peux effectivement installer Steam dessus.
D'accord.
Tout à fait, et avoir exactement les fonctionnalités du Steam Deck, mais peut-être avoir accès à des trucs que tu fais sur un PC normal de façon un petit peu plus facile. Je sais que par exemple sur Steam Deck, il est possible, mais extrêmement compliqué, de faire marcher le store Windows si tu veux accéder à ton Game Pass, par exemple.
Game Pass PC.
Ah
oui, donc là, c'est,
là, c'est beaucoup plus simple d'accéder au Game Pass PC. Il y a même visiblement un partenariat avec Microsoft pour faire ça de façon assez propre. Donc ça peut être intéressant.
Je veux dire, concrètement, la machine, ils vont arriver à mettre toutes ces fonctionnalités d'un gros ordinateur dans un petit machin. Parce que c'était ça le problème du Steam Deck au départ aussi, non ?
Ouais. Mais alors, Valve, qui n'est pas un constructeur de matériel, a réussi à le faire.
D'accord.
Valve, c'est une boutique, c'est des logiciels, c'est des trucs comme ça. Mais Valve, c'est pas des professionnels du matos. Ils ont quand même réussi à faire quelque chose de plutôt cool.
Eux, par contre, c'est des professionnels du matériel.
C'est un constructeur de matériel. Ils font des cartes graphiques, ils font de la mémoire, ils font des cartes mères. C'est ça qu'ils font.
Donc
c'est leur cœur de métier.
Ils devraient mieux y arriver.
Ils sont plutôt assez bien positionnés pour faire quelque chose de crédible. Donc c'est pour ça qu'on va surveiller ça. Ça peut être une alternative intéressante. Après, faut voir comment ça va se positionner d'un point de vue prix.
Ouais.
Asus est une marque assez chère.
Ça va être plus cher que le Steam Deck, a priori.
Est-ce que ça va être plus cher que le Steam Deck ? Est-ce que ça va être plus puissant que le Steam Deck ? Est-ce que... Voilà. C'est étrange. C'est étrange, mais forcément, le carton que fait le Steam Deck, ça incite peut-être qu'il y a d'autres gens qui se disent « Ah, mais peut-être qu'il y a un marché à prendre. »
Bah oui, puis surtout, comme tu dis, s'ils peuvent peut-être faire mieux que le Steam Deck.
Voilà, après c'est intéressant pour tout le monde, tu vois, c'est intéressant que ça soit un marché concurrentiel, parce que si Valve, ils sont tout seuls à faire leur truc, ils vont un petit peu stagner, alors que s'il y a une émulation par concurrence, ça peut être intéressant.
Oui.
Tant qu'on en est à la console portable, est-ce que tu veux des infos exclusives, des fuites, des rumeurs incroyables sur la prochaine console portable de Sony ?
De Sony ?
Sony.
Ils font des consoles portables.
Ils ont fait la PSP, ils ont fait la PlayStation Vita, et depuis la PlayStation Vita, ils n'ont plus trop fait de consoles portables. Mais là, ça y est, les rumeurs reviennent d'une portable de chez Sony.
D'accord.
Alors, calmez-vous, c'est beaucoup moins excitant que ce qu'il n'y paraît. Donc, cette machine, nom de code QLIT.
QLIT.
Q, la lettre Q, et LIT, LIT.
QLIT.
QLIT.
Okay.
C'est la prochaine portable de PlayStation. C'est beaucoup moins intéressant que ce qu'il n'y paraît. Ça serait une machine qui serait 100% consacrée au remote play. C'est-à-dire que
c'est nul.
Et c'est complètement nul. Merci Aza d'avoir décrypté l'info pour nous. C'est effectivement super naze.
C'est nul. D'accord, c'est juste comme si tu jouais sur ton téléphone, quoi.
Ouais, sauf que tu peux pas téléphoner et faire d'autres choses avec. C'est une manette avec un écran. Ils ont installé le remote play dessus, et donc tu vas te connecter à ta PlayStation 5. Donc il est absolument indispensable d'avoir une PlayStation 5 et d'avoir une connexion exceptionnelle pour pouvoir profiter de ce truc-là. Ça va être donc du streaming uniquement. Tu ne vas jamais faire tourner de jeu dessus. C'est que du streaming jusqu'à 1080p en résolution, 60 images par seconde. L'appareil nécessitera une connexion constante à Internet pour pouvoir se connecter constamment alors même pas au cloud de Sony, il va se connecter à ta PlayStation 5 à toi.
D'accord.
Voilà. Voilà. Il y a un écran LCD assez gros, hein, 8 pouces, entre deux moitiés de manette qui ressemblent franchement à la DualSense, hein, à la manette de la PS5. Mmh. L'intérêt du truc, c'est un petit peu... pas forcément évident, hein, parce qu'ils ont sorti plein de choses. En particulier, ils ont sorti une manette sur laquelle... ils ont sorti ça l'année dernière, hein, je ne sais plus comment ça s'appelle, le Backbone. C'est une manette PS5 sur laquelle tu peux fixer ton téléphone. En fait, il y a un espace entre la partie gauche à partie droite pour que tu y mettes ton téléphone.
Oui, bah, du coup, quel est l'intérêt?
Et faire du remote play. Et voilà, je sais pas.
C'est quelque chose qui existe déjà, ça. Enfin,
c'est quelque chose que tu fais super facilement avec une manette, avec un backbone ou avec ton téléphone.
Avec un téléphone, avec un iPad, avec
n'importe quoi.
N'importe quel écran auquel tu rajoutes une manette, quoi.
Voilà, bon.
C'est nul. Pardon, hein, mais c'est pas avec ça que vous allez rattraper.
Voilà. Moi, ce qui me paraît fou, la rumeur dit que ça le fait pas, mais je comprends pas pourquoi ça le ferait pas. Pourquoi, avec un abonnement PS Plus extra ou quelque chose, ça puisse pas se connecter au serveur de cloud comme tu le fais avec ta PS5 pour jouer à des jeux PS3 ou des trucs comme ça, ou même à des jeux PS5 mais dans le cloud.
Et pourquoi
Ça serait déjà un petit peu plus intéressant, tu vois. Ça rajoute un petit peu de polyvalence à l'appareil, mais.
Ça n'a aucun intérêt, cette histoire.
Écoute, hein, je t'avais prévenu que les news, c'était un petit peu les fonds de tiroir, mais voilà
mais news. C'était pas un 1er avril, ça aussi?
Non, bah c'est pas annoncé en vrai, donc c'est une rumeur.
Ah, c'est une rumeur.
C'est une rumeur, hein, c'est pas encore quelque chose de crédible, vraiment, mais c'est de la rumeur. Le film Mario fait un carton, hein.
Oui.
Le film Mario bat tous les records, hein, c'est le meilleur démarrage pour un film d'animation de tous les temps, c'est le meilleur démarrage de 2023 de très très loin. C'est plutôt un succès. Miyamoto fait plein d'interviews, hein, en parallèle du truc, et forcément quelqu'un lui a demandé et quand est-ce qu'on a un nouveau jeu Mario?
Bah, il a dit je m'en fous maintenant, j'ai les poches pleines, quoi. Qu'est-ce que j'en ai à foutre?
Il a répondu, il a rigolé et répondu tout ce que je peux dire, c'est soyez attentifs au prochain Nintendo Direct, au pluriel. Donc voilà.
Oui, voilà, un jour il y aura un autre jeu Mario, quoi.
Oui, mais écoute, il n'y a pas beaucoup d'infos, donc en fait, ce qu'on a, il a dit en interview qu'il faudra regarder les prochains Nintendo Direct. Donc on va regarder les prochains Nintendo Direct. Attends, je te fais la citation complète. Tout ce que je peux dire, c'est rester attentif au prochain Nintendo Direct.
D'accord.
Hein, la citation complète, c'est ça. Voilà. Donc, il y aura un prochain Mario. Ils n'ont pas arrêté de faire des Mario. Konami. Konami, ils font des jeux vidéo. Ils ont arrêté de faire des jeux vidéo pendant un petit moment. Là, ils ont l'air d'être sérieux, de vouloir refaire des jeux vidéo sérieusement. Ils se sont rappelés, ils se sont dit, ah, une époque, on était un petit peu à pied d'égalité avec Capcom. Et aujourd'hui, Capcom, ils sont super forts. Donc pourquoi on ne serait pas super forts aussi? Ils vont ouvrir un nouveau studio à Osaka.
D'accord.
Voilà, le Konami Osaka Studio se situe à Osaka et c'est un nouveau très gros studio pour Konami pour faire du développement de gros jeux. Hein. C'est un studio très, très complet, vraiment à la pointe de la technologie avec des studios de motion capture, de tout ce qu'il faut pour faire vraiment des gros jeux. Ça montre qu'ils sont vraiment sérieux et qu'ils veulent repartir sur le marché du jeu gros budget avec leur grosse licence, hein, Silent Hill, ils ont Castlevania, ils ont Metal Gear, ils ont des trucs qui permettent de vraiment être crédibles dans le secteur. On sait qu'ils veulent annoncer pas mal de choses, alors ils voulaient les annoncer à l'E3, ça va être compliqué. Mais ça, ils vont sans doute les annoncer quelque part à cette période-là. Surtout, on s'attend à un remake de Metal Gear Solid 3. On s'attend à un nouveau gros Castlevania. Donc voilà, ils vont développer des trucs. Alors c'est intéressant, ils s'installent à Osaka. Il n'y avait pas trop de scènes jeux vidéo à Osaka.
Ah bon ? D'accord.
Donc du coup, ils vont pouvoir recruter tranquillement des développeurs de ce coin-là. C'est plutôt stratégiquement intéressant.
Ouais.
Deuxième news. Capcom ouvre un nouveau studio à Osaka. Alors c'est rigolo, la news est tombée littéralement 20 minutes avant qu'on commence d'enregistrer ce podcast. Oui, Capcom ouvre un nouveau studio à Osaka.
Si vous habitez Osaka, il vaut mieux vous orienter sur le jeu vidéo.
C'est très drôle, hein, parce que c'est un gros studio, hein, à la pointe de la technologie, développer des gros jeux, hein, qui va se baser vraiment sur les dernières technologies de Capcom, sur leur RE Engine et tout, avec deux studios de motion capture. Et voilà. Donc, ouais, donc maintenant Osaka, capitale du jeu vidéo au Japon. Voilà, c'est intéressant. On va voir. Alors, c'est des studios qui viennent d'ouvrir. Hein. Il va se passer du temps avant que. Voilà. Je reviens un petit peu à Konami. Konami aussi, ils ont annoncé qu'ils allaient ouvrir un nouveau centre de recherche et développement à Tokyo cette fois. Et ça va être. La construction va se terminer en 2025.
D'accord.
Donc beaucoup d'investissements du côté de Konami, beaucoup évidemment du côté de Capcom, qui est vraiment au sommet de sa gloire hein, en ce moment. Le carton de Resident Evil 4, ça aide un petit peu. Hein. Ils en sont à 4 millions d'exemplaires vendus. C'est beaucoup.
Ouais.
C'est beaucoup. C'est très vite en fait. C'est très rapide. C'est le.
Bah, surtout, c'était un remake qu'on craignait un petit peu parce que qui ressemblait beaucoup au jeu original. Et
ouais, voilà. C'était peut-être.
Et en fait, ils se sont gavés quoi.
Ils se sont gavés. Alors que c'était effectivement, comme tu dis, c'est sans doute le remake qui était le moins nécessaire, on va dire, parce que Resident Evil 4, l'original est encore tout à fait jouable et accessible assez facilement sur les consoles modernes. Donc c'était pas forcément indispensable, mais ça marche bien, ça se voit. C'est le Resident Evil qui se vend le plus vite, le plus fort de l'histoire hein, pour l'instant.
Donc, d'accord, donc ouais, ils se sont gavés quoi.
Ils se sont gavés. Quantum Break.
Ah ouais.
Ouais, bah Quantum Break, alors on va parler de Quantum Break un petit peu, le jeu de Remedy qui était une exclusivité de la Xbox One. Hein, une des rares exclus de la Xbox One. Il se passe des trucs bizarres avec Quantum Break. Le jeu quitte le Game Pass. Le jeu a quitté le Game Pass.
D'accord.
Ce qui est un petit peu bizarre. Hein, les fans de Microsoft ont dit mais c'est bizarre, Philou, qu'est-ce que tu fais là ? C'est le jeu exclusif. Maintenant, ils s'en vont du Game Pass. Ils ne devaient pas rester tout le temps.
Ah oui, c'est vrai.
Hein, et ils ont ce à quoi ils ont répondu. Oui, on travaille dessus. C'est un problème de licence. On est en train de renouveler des licences. Ça s'est pas bien passé, mais on y travaille. Le jeu va revenir.
D'accord.
C'est visiblement un très gros problème de licence parce que le jeu a non seulement quitté Game Pass, mais il est aussi retiré de la vente du store de Microsoft et de Steam. Le jeu n'est plus disponible nulle part. Donc vraiment des problèmes de licence qui font que le jeu a été complètement retiré de la vente de toutes les plateformes. Il n'est plus disponible nulle part.
Mais c'est un problème de licence, ça ? Je ne comprends pas, en fait.
On ne sait pas... Ils n'ont pas donné plus de détails.
Parce que je ne comprends pas comment un jeu il peut ne plus être disponible du tout, quoi.
Alors...
Je veux bien que ça peut être plus disponible sur un service genre le Game Pass, ok, mais plus disponible du tout à la vente, je ne comprends pas, quoi.
C'est des choses qui peuvent arriver quand tu... Quand tu utilises sous licence de la musique, que tu vas, donc tu vas prendre la licence pour l'utiliser dans ton jeu, ou des acteurs qui travaillent pour apparaître dans ton jeu, selon comment sont rédigés les contrats, c'est peut-être des acteurs qui, voilà, et machin, et on fait un contrat sur 5 ans, et puis après on va le renouveler, des trucs comme ça.
Il y a qui dans Quantum Break ?
Alors. Je vais pas dire que c'est à cause de lui parce que ça serait des spéculations à la con sur une situation qui est pas marrante. Il y a Lance Reddick dans Quantum Break.
Et alors je sais pas. Lance Reddick, il est dans tous les jeux vidéo.
Oui, hein, il est dans tous les jeux vidéo.
Ça va être problématique si.
Voilà, mais peut-être.
Ouais, peut-être que c'est
peut-être
ça.
Peut-être hein. que le pauvre a. Est décédé au moment où il y avait effectivement des négociations de renouvellement du contrat, et c'est des négociations qui du coup sont tombées à l'eau avec les ayants droit qui disent bon bah deux secondes, il faut qu'on s'organise, c'est plus compliqué que prévu. Ça peut être ça. Je dis pas que c'est ça, mais ça peut être une explication, tu vois.
C'est possible.
Des trucs qui sont censés, c'est censé être des formalités, c'est hey, on renouvelle comme on avait dit, il faut juste que tu me renvoies le truc signé. S'il n'y a plus personne pour envoyer le truc signé, c'est plus compliqué. Voilà, donc à voir. Donc Quantum Break n'est plus disponible, mais tout le monde travaille dessus pour qu'il
revienne.
D'accord,
ok.
Mais c'est une situation un peu bizarre. Revenons chez PlayStation et sur les. J'aurais pu faire la news en même temps que l'autre puisque on va parler de matériel bizarre chez PlayStation. Ils ont déposé un brevet pour une manette. Une manette qui changerait de température dans ta main.
Ah, si jamais t'as les mains qui chauffent, c'est ça ? Ça te refroidit les mains ?
Alors, plutôt pour...
Pour te réchauffer les mains quand il y a froid ?
C'est ça, en hiver. Non, ça serait plutôt pour... C'est plutôt pour retranscrire des choses qui se passent dans le jeu.
Ah, voilà. Quand t'es dans une zone où il fait froid, voilà, ta manette, elle est froide.
Voilà, ton
quoi.
Personnage traverse le blizzard et tout, ta manette, elle est froide et tout, machin, t'as les... Voilà. Ou à l'inverse, il est en train de tirer avec une mitraillette qui est en train de chauffer, et ta manette, elle chauffe. Non, voilà, tout ce qu'on avait besoin, c'est un truc qui épuise encore plus vite la batterie de la manette de la PlayStation.
Ouais, c'est clair que,
donc
franchement...
Ça, y a pas de... Voilà, merci, c'est... Donc ça pourrait émuler la température et faire des nouvelles sensations dans ta main ou ailleurs. Hein, je ne sais pas où tu la mets ta manette.
Ouais,
mais,
non, parce que là, ça ressemble de plus en plus à un vibromasseur, cette histoire. Hein,
ah, c'est vibrant, chauffant, c'est parfait.
Ouais,
c'est...
voilà, je ne sais pas, mais...
Ok, on arrête cette news, on passe à la suite. Arc 2 et... repoussé.
Arc 2.
Arc 2. C'est la suite de Arc.
C'est le truc avec...
Arc. Alors, l'original Arc sur Survival Evolved est un jeu de survie.
Mais c'est le truc avec machin.
Avec Vin Diesel.
Ouais, voilà.
Ah, absolument. Le 2, c'est celui avec Vin Diesel. Le premier, c'est un jeu de survie.
Ah, le premier, il
n'y
a pas
dinosaures.
Vin Diesel.
Non, il n'y a que des raptors. Tu survis dans le truc.
Et du coup, dans le 2, tu as évolué en Vin Diesel.
Dans le 2, il y a toujours des Raptors, mais sur le dos du Raptor, il y a Vin Diesel, donc c'est infiniment plus classe. le jeu est repoussé, hein, alors ils ont dit oulala, Unreal Engine 5, c'est compliqué finalement, donc ça va,
ça va nous prendre 10 ans.
Ça va nous prendre vachement plus de temps que ce qu'on pensait. Hein, on s'est dit juste, tu lances le truc, tu cliques, c'est facile, mais non. Unreal Engine 5 est une technologie incroyablement nouvelle pour nous tous et pour tous les développeurs et nous voulons exploiter son potentiel au maximum et créer un jeu d'une ampleur jamais atteinte jusque là.
Oula. Et ne faut pas partir comme ça, alors sinon tu ne sors jamais ton jeu. Hein.
Alors que nous apprenons à maîtriser le moteur et que nous développons la suite de Arc, nous avons adapté nos méthodes de travail pour s'adapter à la nouvelle génération hein, et tout ça va prendre bien évidemment plus de temps que ce que nous pensions. Bref, le jeu est repoussé jusqu'à fin 2024 au plus tôt.
Fin 2024 au plus tôt. Fin il devait
2024,
sortir quand le jeu
quelque part en 2023.
Putain.
Donc fin 2023, tout est repoussé. Non, c'est pas le bon. Je voilà.
Fin 2024.
C'est ça.
Deux ans. Deux ans de report.
Ça devait sortir quelque part en deux... Ouais, quasiment deux ans. Ouais, non, c'est fin 2024.
Ah, c'est... Donc, ça envoie quand même, hein.
Donc, vous allez devoir malheureusement attendre un petit peu plus avant de voir Vin Diesel torse nu sur le dos d'un dinosaure. Mm. Mais c'est pas grave. En attendant, vous pouvez toujours jouer à Arc, l'original. Et surtout, Survival Ascended, son remaster...
Ah
oui, pour patienter, ils vont le remasteriser. Ils vont remasteriser l'original, comme ça les gens pourront avoir un jeu un petit peu plus moderne pour patienter jusqu'à la sortie du 2.
Ils ont le temps de faire ça
Je sais pas, mais en tout cas, ce remaster va sortir sur PS5 et sur Xbox au prix de 40€.
Putain, ça fait cher le remaster. Hein.
Alors, tu vas me dire... Bien entendu, il y a une possibilité d'upgrader si tu as déjà l'original. Non, c'est 40€, s'il te plaît. Bon, bah c'est pas grave, on va continuer à jouer à l'original, ils vont se le mettre au cul, leur un truc. Non, ils ferment les serveurs de l'original.
Mais...
C'est-à-dire qu'ils te forcent à racheter le
Mais
jeu.
Ils prennent pour une conne, là.
Alors, pas toi spécialement, parce que tu t'en fous du jeu, tu vois, tu n'as jamais joué de ta vie.
Spécifiquement moi, ils me font chier, là.
Voilà. Non,
non je m'en fous du
non,
jeu,
le,
mais...
Le plan, c'est ça. C'est-à-dire que le 2 est repoussé à fin 2024, et en attendant, le 1, il faut que tu le rachètes. Parce
si tu
que,
veux continuer à y jouer.
Si tu veux continuer à y jouer, parce qu'ils ferment les serveurs du précédent.
C'est un peu mettre le couteau sous la gorge des joueurs, c'est vraiment pas sympa.
Ah, les joueurs, ils sont pas contents. Hein. Alors, le jeu sortira... Alors, niveau prix, hein, je t'ai pas dit les prix... Le... Niveau prix, c'est encore plus drôle. Le jeu sortira donc au prix fort de 50€ sur Xbox, mais seulement 40€ sur PS5.
Pourquoi il y a un partenariat ?
Non, c'est là que c'est là que ça commence à devenir drôle. Sur Xbox à 50€, tu as donc cette version remasterisée de Arc, mais tu as également un accès privilégié à la bêta fermée de Arc 2.
D'accord, qui marche pas vu qu'ils savent pas faire marcher l'Unreal Engine.
Pour l'instant, le voilà, c'est... sur PS5, le jeu est moins cher, mais tu n'as pas cet accès à la bêta fermée de Ark 2. Pourquoi ? Ark 2 est exclusif à la Xbox.
D'accord.
Donc sur PS5, le jeu est un petit peu moins cher, mais c'est parce que tu n'auras jamais Ark 2, donc tu te le mets au cul, quoi.
D'accord.
Les fans sont pas contents. Moi, je suis pas joueur, donc je me sens pas concerné, mais les fans sont vraiment pas contents. Et il y a de quoi. Hein.
Oui, non, là, c'est n'importe quoi. On est d'accord. C'est n'importe quoi. Je veux dire, ça va beaucoup trop loin là dans la connerie.
C'est ça va un petit peu.
Malgré Vin Diesel.
Non, mais malgré
même Vin Diesel, il rattrape pas tout ça.
Malgré toute la bonne volonté Vin Diesel, il faut qu'il intervienne. Hein. Il faut qu'il vienne avec sa voiture de Fast.
Dire oula, c'est n'importe quoi. Là.
Et voilà, c'est n'importe quoi. Il faut qu'il rappelle à tout le monde qu'avant tout c'est la famille. Tu peux pas.
Tu peux pas faire ça, quoi.
Il va appeler son pote The Rock.
Non, ils sont pas copains.
Ils sont pas copains. En même temps, Vin Diesel, il fait 1m40, il a appelé The Rock petit frère.
Oui, non, tu peux pas faire ça.
Tu peux pas, il y a des choses, des limites, quoi. Final Fantasy, ça fait au moins 20 minutes qu'on n'a pas parlé de Final Fantasy.
Ouais, les
pixels remasters, donc les versions remasterisées, mais en style pixel de l'époque, de Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5 et 6, sortiront sur Switch et PlayStation le 19 avril. Bientôt.
D'accord, c'était pas déjà sorti.
C'était sorti sur PC uniquement.
D'accord.
Ce qui était un peu bizarre. C'était sorti sur mobile également, je crois.
Aucun sens.
Bref, okay. Enfin, une version console, hein, puisque ça sort sur PlayStation et sur Switch. C'était prévu pour quelque part courant printemps. La date est maintenant ferme, c'est le 19 avril. Bonne nouvelle, ils ont changé la police des textes. C'était un sujet grave, hein, pour les fans de Final Fantasy. Parce que ce pixel remaster était sorti sur PC avec une police dégueulasse, moderne, on aurait dit un jeu mobile bizarre.
D'accord.
Alors que voilà, si tu joues à Final Fantasy, il faut la police de l'époque pixelisée, machin. Donc ils ont remis la police pixelisée.
Donc ils l'ont remis sur PC.
Et je pense que la version PC va être patchée.
D'accord.
Voilà. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Les jeux vont être disponibles soit en pack, soit individuellement. Il y aura quelques petites améliorations sur les jeux, des petites fonctionnalités qu'il n'y avait pas sur les originaux, comme la possibilité de couper complètement les rencontres aléatoires.
D'accord.
Hein, tu sais, parce que c'est les jeux à l'ancienne. Hein, ton bonhomme, il se balade sur la carte du monde et aléatoirement, ça déclenche des combats de temps en temps. Voilà. Si ça te saoule, si tu veux plus avoir de combat et avancer dans ton truc, tu peux les désactiver. Tu peux aussi ajuster les gains d'expérience parce que c'était des jeux qui nécessitaient de farmer beaucoup pour être au niveau. De temps en temps, quand le jeu commençait à devenir trop dur, le jeu, il fallait revenir en arrière et puis faire des dizaines de combats en boucle pour avoir le niveau et pouvoir continuer. Là, tu vas pouvoir équilibrer l'expérience et multiplier les gains d'expérience jusqu'à 4, ça va permettre d'avoir un niveau un petit peu plus correct et de progresser plus vite. Voilà pour les news jeux vidéo, petite news série cinéma, le studio Legendary a racheté les droits en film et en série télé de Street Fighter.
D'accord.
Et ils ont annoncé le tournage d'un nouveau film Street Fighter.
D'accord.
Voilà, donc on va bouffer du Street Fighter. Il y a des chances qu'on bouffe du Street Fighter cette année, hein, avec Street Fighter 6 qui sort bientôt et qui s'annonce plutôt de bonne qualité.
Ça faisait longtemps
qu'il
n'y avait pas eu un film Street Fighter, non ?
Alors...
Est-ce que le dernier, c'était le truc avec Jean-Claude Van Damme ?
Non, c'était pas le dernier. Donc effectivement, 1994, c'était Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme et Kylie Minogue.
Ouais, c'est vrai, Kylie Minogue.
Ouais. Ouais, et Raoul Julia, c'était son dernier rôle.
Qui ?
Raoul Julia.
Je sais pas qui c'est.
Alors, c'est le père dans La Famille Adams.
Ah.
Et c'est Bison. C'est le méchant dans le film Street Fighter. C'était son dernier rôle. Il est tragiquement décédé. En 2009, il y avait aussi un film, Street Fighter The Legend of Chun-Li. C'était tout aussi mauvais. Voilà, pas trop de succès pour l'instant pour les films Street Fighter, mais on va voir ce que Legendary arrive à faire. Donc c'est un film, un vrai film, hein, ça va pas être de l'animation ou des trucs comme ça. Mm-hmm. Ça sera avec des acteurs,
avec des gens, quoi.
Avec des vrais gens, on sait pas encore qui, probablement Chris Pratt dans le rôle de
Blanca. Je sais pas comment ils vont faire pour faire la même chose que ce qu'ils font dans Street Fighter, ça va être compliqué.
Je sais pas.
Tu peux... à la limite, Van Damme, à l'époque, il faisait des trucs, quoi, tu vois. Mais là,
bah, Van Damme, il faisait des trucs jusqu'à ce qu'il fasse un Sonic Boom, tu vois, je veux dire, il y a des choses...
Non, mais il faisait des trucs, je veux dire, il était capable de faire des bons mouvements, quoi.
Ouais.
Maintenant, comment tu chopes un mec qui fait ça? Ça n'existe plus, hein.
C'est sûr.
Il n'y a plus hein, quand même des acteurs comme ça d'arts martiaux.
Non,
de fou,
ouais, c'est un peu triste. Hein, c'est,
Il y avait une époque où ça le faisait quand même. Maintenant, fini.
C'est moins populaire. Ouais. Allez, c'est terminé pour l'actu. On va passer à l'agenda des sorties qui est extrêmement léger cette semaine. Donc, un petit agenda des sorties. Rien. Je veux dire rien. Alors, pas rien. Le 12 avril, c'est mercredi, sortira la version Xbox et donc Game Pass par la même occasion de Ghostwire Tokyo.
Ah, et voilà. Avec le DLC.
Avec le DLC, voilà, avec un gros patch qui rajoute du contenu et des trucs en plus. Ça va pas changer fondamentalement le jeu, mais voilà, on va quand même essayer de tester un petit peu ce DLC pour ce DLC. C'est gratuit, hein, c'est un patch gratuit pour tout le monde, c'est pas.
Ouais. Oui, voilà, si tu l'as sur PlayStation, tu peux upgrader le truc. Hein.
Tout à fait, le patch sort sur toutes les plateformes. Si tu l'as sur PC ou PlayStation, tu peux effectivement patcher ton jeu et avoir le contenu en plus sans frais supplémentaires. Surtout que le jeu Ghostwire Tokyo est également disponible sur le PS Plus Extra.
D'accord.
Donc c'est vraiment un jeu qui est aujourd'hui très accessible et je pense que ça vaut le coup de le tester si vous n'avez jamais testé Ghostwire Tokyo. Ouais. C'était compliqué de le recommander au prix fort à 70-80 euros. Mais,
Il était à 80 euros ce jeu ?
Je crois qu'il était à 70. Mais,
c'est trop. Oui, c'était...
Mais voilà, inclus dans un abonnement que vous avez déjà,
ah là, oui,
c'est vraiment quelque
bien.
Chose à voir.
Tout à fait.
C'est magnifique, c'est un style assez original, c'est une ambiance assez originale. N'hésitez pas à tester donc Ghostwire Tokyo sur Xbox ou sur PlayStation. Aza, merci.
Ah, c'est tout ?
Eh oui, c'est tout.
Ah ben,
eh oui, non, je t'avais dit que ça serait léger. c'est tout pour cet épisode. Merci, merci à tous, merci de nous avoir suivis. On vous souhaite une excellente semaine. On est de retour la semaine prochaine, lundi, pour de nouvelles aventures. D'ici là...
On fera peut-être des streams.
Il y aura peut-être des streams, gardez un œil sur la chaîne,
Mais
Twitch.
Mais c'est pas sûr.
Il y aura sans doute des streams, sans doute pas aux jours et aux heures habituelles, mais voilà.
Voilà.
Pour toutes. Moi, j'ai besoin. Il faut que je continue Jedi Fallen Order qui me plaît beaucoup. On est encore dans les temps pour le terminer avant la sortie de Jedi Survivor, mais on va pas se relâcher. Il y aura un stream
cette
semaine.
Oui, mais il y a personne qui vient voir quand tu joues à Jedi Fallen Order.
Ouais, mais ça me fait plaisir de jouer quand même.
Donc il faut venir quoi.
Il y aura un stream cette semaine. Ça sera sans doute pas jeudi, mais ça sera cette semaine, un soir.
Ok.
Voilà, merci à tous, des bisous, à la semaine prochaine, passez une excellente semaine, bye bye.
Salut.